Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment cinéma. Et avec toi, Marine, on va aller dans le Maghreb.
Oui, je vais vous parler de En attendant les hirondelles, le premier film de Karim Moussaoui qui se passe en Algérie. Et je vous parlerai également de Prendre le large, le retour de Sandrine Bonnaire au cinéma qui, lui, se passe au Maroc.
Et toi, Manu, tu vas nous plonger dans le passé, notamment avec un vieil acteur et puis sur un court de tennis.
Oui, à Wimbledon, durant l'été 80, avec Borg McEnroe. Et puis, je vous parlerai du dernier Jackie Chan, The Foreigner.
Et moi, je vous parlerai de Happy Birthday. Dead, le film qui devrait faire la petite sensation pour les sorties du 15 novembre. Ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial boucle temporelle puisque le personnage de Happy Birthday est plongé dans une boucle temporelle où elle se fait tuer à chaque fois. Mais je vais commencer avec un film d'un réalisateur que j'apprécie énormément, c'est le géorgien George Ovashvili pour Kibula.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Dans ses deux premiers films, le géorgien George Ovashvili a toujours considéré la trajectoire de son pays, ex-république soviétique. Dans L'autre rive, en 2009, on y voit un garçon partagé entre la Géorgie et ses racines qu'il trouve en Abkhazie. Dans La Terre éphémère, sortie en 2014, le réalisateur ne fait pas l'économie des tensions qui existent entre la Géorgie et l'Abkhazie voisine en plaçant son personnage principal alors sur une île qui apparaît à la faveur de la saison chaude sur un fleuve marquant la frontière entre deux régions. Radicaux dans leur style, dans leur sujet, ces deux films regardaient de manière plus ou moins frontale la société géorgienne. Un pas vient d'être franchi avec Kibula, son dernier film. C'est le nom d'un village, celui dans lequel en 1993, Ziad Gamezagourdia, que vous connaissez peut-être, non ? C'est l'ancien président de la Géorgie en exil. C'est dans ce village qu'il a trouvé la mort, donc en 93. Cet homme avait arraché l'indépendance de son pays aux soviétiques, mais en ces temps difficiles, eh bien, l'Union soviétique a refusé de le reconnaître et a tout fait pour imposer un autre homme qui n'a cessé de traquer les indépendantistes. Alors le réalisateur George Ovashvili nous plonge dans les derniers jours de ce président qui revient d'exil. Seulement accompagné de quelques hommes armés et de ses fidèles, dont son premier ministre, l'homme d'État rentre clandestinement en Géorgie en passant au travers des montagnes et espère reprendre le pouvoir. Le film raconte donc cette courte épopée d'un homme qui, à mesure qu'il va avancer vers la capitale, va perdre sa position, son autorité, son influence et ses illusions. Si le récit peut paraître lent, le président et ses hommes ne sont jamais tranquilles et souvent sur la route, de quoi mettre un peu de rythme. Chaque trajet, le franchissement d'un col, le passage d'une rivière, la traversée d'une forêt est l'occasion pour George Ovashvili, comme il l'a fait pour ses précédents films, de magnifier la nature qui est tour à tour majestueuse et inquiétante, allant jusqu'à écraser le personnage qui n'avait pas besoin de ça. À mesure que celui qu'on appelle le président avance vers la reconquête du pouvoir, à la recherche de soutien, il peut sentir la désaffection de ses partisans, tout comme la reconnaissance d'un peuple qu'il identifie encore comme un sauveur. Ce voyage permet au président d'être au plus près des Géorgiens, de manger leur soupe, de dormir dans leur maison, où on s'y éclaire à la bougie ou encore d'entendre leur chant. Faut bien l'admettre, on prend pour perdu, voire inutile, la traversée du Caucase par cette poignée d'hommes sexagénaires. La mise en scène est attentive au personnage principal. Le réalisateur guette ses inquiétudes, ses tourments, ses petites satisfactions en s'attachant à révéler un état intérieur qui déborde parfois à l'écran à l'occasion d'hallucinations. Tourné en 35 mm, Kibula jouit d'un beau cadre, d'une belle lumière, ce qui était déjà la marque de fabrique du réalisateur. Il ajoute à ces deux éléments le contraste pour encore mieux accompagner les tourments intérieurs du président. Si Kibula n'a pas la force des deux premiers longs métrages de George Ovashvili, La dureté du chemin et la solitude de ces hommes qui avaient un temps pu donner l'espoir aux Géorgiens de se séparer du bloc soviétique a quand même quelques atouts. Hein. Dans son long métrage, le réalisateur géorgien ne traite pas seulement de l'histoire politique de son pays. Le président n'est jamais nommé, le propos est plus universel. Il s'agit du désenchantement du pouvoir chez un homme qui est autant un politique qu'un poète. Et ça, on l'apprendra quand le générique tombe. Kibula de Georges Ovachvili, c'est sur les écrans à partir du 15 novembre.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et c'est McEnroe qui entre en premier. Sous les huées des spectateurs. Ici, c'est la première fois qu'on voit ça dans une finale. Et voici Bjorn. J'espère que tu sais, Bjorn, que toute la Suède est derrière toi pour t'encourager.
C'est la finale dont nous rêvions tous. Borg, un joueur au parcours de légende, sur qui pèse une pression énorme aujourd'hui. 4 titres à son palmarès, mais le 5e risque d'être encore plus difficile à décrocher.
Silence, s'il vous plaît. Silence. McEnroe au service. Vous êtes prêts ? Jouez !
Nostalgie, nostalgie, quand tu nous tiens. Borg McEnroe relate donc un moment incroyable de l'histoire du tennis, le tournoi de Wimbledon, durant l'été 80, hein, apogée de la carrière du Suédois avant sa retraite anticipée en 81, à l'âge de 25 ans, et l'ascension d'un joueur aussi exceptionnel que tête à claque, l'électron libre John McEnroe, qui deviendra lui numéro 1 l'année d'après. Alors relater ce moment charnière de leur existence, hein, 36 ans après, peut paraître incongru, voire daté, mais à la vision du film, on se demande surtout pourquoi un tel potentiel n'a pas inspiré un cinéaste plus tôt. Alors évoquer ces deux icônes sans sombrer dans l'adulation étaient l'écueil à éviter. Pari que le Danois Janus Metz Pedersen réussit en partie grâce à son talent d'observation qu'il doit à un passé de documentariste, en l'occurrence l'excellent Amar Dilio dans Le piège afghan. Alors, faux biopic hein, condensé sur une semaine, hein, Borg McEnroe étonne avant tout par la façon dont vivaient les sportifs il y a une trentaine d'années. Alors, adulés certes, mais pas encore considérés comme des stars inaccessibles, entourés de gardes du corps et mitraillés par les paparazzi. Ça, c'est le côté étonnant du film. Ils se promènent librement et ils ne sont pas embêtés. On leur demande de temps en temps des autographes, mais pas plus que ça. Alors, à moins qu'il ne s'agisse aussi que d'un regard naïf d'un réalisateur souvent à la limite de l'imagerie d'Épinal, mais cette imagerie modeste et touchante est aussi une radiographie d'une époque pas totalement corrompue par le fric et les médias. Janus Metz évoque en sourdine et de manière subtile l'épuisement psychologique de Borg, obligé quand même de se plier à certaines exigences imposées par les sponsors et les tournois d'exhibition. Cette dérive, encore en balbutiement, n'a rien à voir avec ce qui peut se passer aujourd'hui. Alors à travers le tennis, hein, le discours du cinéaste est clair, il filme parfois sans finesse la fin d'une époque qui vit ses derniers instants d'innocence avant le virage fatal des années 80. Alors les deux champions, hein, Borg et McEnroe, apparaissent malgré leur caractère antinomique comme des personnages touchants, désintéressés par l'argent, mais par contre obsédés comme des enfants par la victoire et la peur de perdre. Alors c'est bien la grande qualité de ce film assez académique sur bien des points, de toucher du doigt l'essence même du tennis, sport ultime de l'anxiété, de la solitude intérieure. Le moindre écart et puis tout s'écroule. Alors le meilleur joueur du monde peut se dérégler en 2-3 mouvements à cause d'une erreur, d'un regard déplacé, d'une pensée qui parasite la concentration. Alors d'où cette manière souvent très juste de décrire à quel point les joueurs ritualisent leur existence. Alors surtout dans le cas de Borg, hein, personnage énigmatique d'un calme impressionnant mais trompeur. Les névroses du Suédois sont réellement inquiétantes. Le film renverse d'ailleurs habilement les apparences soigneusement entretenues par les médias. Borg, le gentleman impassible au sang-froid, suspect contre le caractère réel McEnroe, à qui l'on doit d'ailleurs ses légendaires colères sur le court, transformant ainsi le tennis en un spectacle.
C'est une blague ? Vous pouvez pas faire quelque chose pour les pigeons ? Vous êtes bouché ? Sur le toit, vous entendez pas ? Sur le toit ?
On ne peut strictement rien faire pour les pigeons pendant le match.
Putain, merde ici ! Ces putains de pigeons foutent en l'air ma concentration, vous comprenez ?
Je vous demande de continuer de jouer, monsieur McEnroe.
La ferme.
Le paradoxe, c'est que c'est comme ça que McEnroe se concentrait, en râlant en fait. Mais à l'origine, en fait, la vraie tête de mule, le mauvais perdant insupportable, n'était autre que Borg qui a su canaliser ses angoisses grâce à son coach, hein, incarné là, par l'excellent Stellan Skarsgård, et à tout un système organisationnel à la limite de la pathologie. Et surtout, parvenir là où il est en dépit de ses origines modestes.
Je crois qu'il est important de prendre une décision forte.
6 mois de suspension, c'est peut-être un peu exagéré, non ?
Nous avons reçu plusieurs coups de téléphone, beaucoup d'appels de toute la région, de Halmstad, Falköping, Stockholm. Des parents des joueurs qu'il a rencontrés. Ils sont scandalisés par l'attitude de votre fils et plusieurs d'entre eux ont demandé que leurs enfants ne côtoient plus Bjorn. Le tennis n'est pas un sport comme le football ou le hockey où il n'y a que la victoire qui compte. Au tennis, la manière de gagner est tout aussi importante que la victoire. C'est un sport de gentleman. Pour être tout à fait honnête, le tennis s'adresse à une certaine catégorie de la population. Il ne convient pas à toutes les classes sociales, vous comprenez ?
Alors, ce qui était vrai en 80 ne l'est plus tout à fait aujourd'hui tout de même. Hein. Alors, c'est étrange d'une histoire que certains d'entre nous ont vécue, à la télé notamment, et passionnante sur les coulisses, davantage que sur la reconstitution artificielle et expédiée des matchs, filmés dans un style boursouflé entre pubs pour marques de vêtements et clips usant de tous les tics visuels à la mode. Alors, ralenti insistant, musique envahissante, un montage cut parfois pénible. Janus Mess ne s'est pas vraiment observé le sport dans sa spécificité, avec ses pauses, sa lenteur, son angoisse d'exécution. Son regard est juste spectaculaire. Alors, il sait maintenir la tension, hein, le suspense qui demeure présent, ne serait-ce que par la force d'incarnation de ce qui s'est passé dans la réalité. Borg, qui rate à peu près 15 balles de match, suffit à captiver le spectateur, même lorsque l'on connaît l'issue du match. Mais le Danois a du mal à renouveler le genre lorsqu'il s'agit de filmer vraiment le sport en lui-même. En revanche, il se montre beaucoup plus convaincant quand il ralentit le rythme et s'attarde sur le quotidien des deux tennisman, très attachants, frères ennemis au départ, mais qui deviendront de véritables amis par la suite. Alors, la vie d'asset de Borg s'oppose à celle dissolue de McEnroe, entourée de quelques trublions, dont le joueur Vitas Gerulaitis, connu pour son manque de sérieux, son goût pour les filles, la fête et la cocaïne. Alors j'ajouterai à ça que les comédiens sont excellents aussi.
Chia Leboeuf, voilà, notamment, qui interprète McEnroe, forcément.
Et puis le Suédois, qui est le sosie quasiment parfait de Borg. Mmh.
Merci. On va maintenant retourner dans le passé, mais cette fois-ci sur les conséquences de la guerre civile algérienne.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Présenté dans la catégorie Un certain regard en attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, il y avait totalement sa place en raison de son inventivité, de ses partis pris et de son regard sans concession sur l'Algérie. Le film n'est pas vraiment un film choral, hein. Il opte pour une écriture plus radicale. Chaque partie du film introduit un nouveau personnage que nous suivons et ainsi de suite. C'est à la fois l'atout majeur du film, son audace et en même temps sa faiblesse, puisque le spectateur se retrouve un peu perdu dans cette narration et il nous faut un certain temps pour en comprendre le concept. Bon, maintenant vous êtes prévenus, donc voilà, vous le saurez. Mais c'est vrai qu'à la première vision, quand on ne le sait pas, on est totalement perdu. Alors il est vrai que lors de sa première vision à Cannes, mon emballement avait quand même été bien moindre que la plupart des critiques. En cause peut-être un aspect quelque peu amateur, des lourdeurs, des répétitions dans une mise en scène très monstrative et un jeu des comédiens qui, je trouvais, manquait un peu de justesse. Nous suivons ainsi les moments clés de la vie de trois personnages rattrapés par leur passé et qui arrivent à un moment de leur existence où ils pourraient faire un choix décisif. Il y a le promoteur qui assiste à une scène qu'il n'aurait pas dû voir, il y a le médecin qui va se voir rappeler ses mauvaises actions passées et puis il y a cette jeune fille qui a choisi de renoncer à son amour de jeunesse pour en épouser un autre et pour qui tout va basculer au cours d'une danse. Le but du jeune réalisateur dont c'est le premier film est d'établir un lien entre les années noires de l'Algérie et son présent et de montrer à quel point cette période de guerre civile a toujours des répercussions aujourd'hui. La frontière entre passé et présent est parfois ténue, la temporalité semble abolie pour mieux rappeler que les heures les plus sombres de l'Algérie ne sont pas si loin. Et pourtant, si le constat est sévère, le traitement n'est pas pour autant austère. Le film est même parfois très surprenant, comme lorsqu'il s'offre un intermède en forme de comédie musicale, aussi bancale qu'impromptue. Mais c'est cela aussi qui nous fait penser qu'on assiste là à l'émergence d'une nouvelle vague du cinéma algérien, bien qu'elle ne soit toujours pas débarrassée de ses vieux démons. Voilà, en attendant les hirondelles de Karim Moussaoui.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, hein, c'est vraiment un premier film, il faut le prendre comme ça, qui parle de sujets plutôt graves, donc cette guerre civile algérienne. Et après, notamment, alors, les ruptures stylistiques sont plutôt malvenues, c'est comme ça. Enfin, c'est le premier film, mais ça n'en fait pas non plus un film désagréable. Et il y a plein d'enseignements à prendre sur la société algérienne telle qu'elle l'a vécue maintenant, eh bien, cette période noire. En attendant, Les Hirondelles, c'est sur les écrans.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Qu'est-ce qui se passe, ça va ?
Et hop, avec l'arrivée de l'automne, en plus des vitamines, vous prendrez bien un slasher produit par Blumhouse Productions, à qui l'on doit les franchises pas forcément toutes captivantes, hein, Paranormal Activity, American Nightmare ou encore Insidious. Voici Happy Birthday de Christopher London. Un petit film qui n'a pas coûté bien cher, c'est un peu le principe de la production, et qui mise tout sur son scénario. Un scénario qui s'inspire des histoires plaçant les personnages dans des boucles temporelles. Nous sommes aux États-Unis sur le campus. Tri a fait beaucoup trop la fête et se réveille dans la chambre d'un étudiant qui a tout du bon élève. Mais ce n'est pas là le plus louche. Tri va revivre ce réveil plusieurs fois car elle est plongée inlassablement dans la même journée qui s'achève par son meurtre. La mission de Tri, si elle veut bien cesser de mourir, est évidemment de trouver son meurtrier au visage masqué. L'avantage qu'elle a sur lui, c'est de comprendre vite le processus et même de s'en accommoder. Et nous, spectateurs, revivons comme elle sa journée banale de lendemain de cuite et éliminons les potentiels coupables à mesure qu'elle rencontre les différents personnages qui la composent.
Tu sais ce que j'en pense, moi ? Je pense que t'as un nombre de vies illimité et autant d'occasions de résoudre ton propre meurtre.
Tant que je suis censée continuer à mourir. Jusqu'à ce que je découvre qui est mon assassin.
Tu veux vivre jusqu'à demain, non ? Celui qui te tue, il sait que c'est ton anniversaire.
En gros, toute la fac est au courant.
Vous avez subi des traumatismes très graves. Vous devriez être morte.
Alors on va l'avouer, Happy Birthday a quelque chose de réjouissant. Hein. D'une part, le scénariste s'amuse à parodier Un jour sans fin et sans faute flagrante, mais fini le présentateur de La météo et les marmottes, hein. Bienvenue l'étudiante dévergondée qui s'envoie en l'air dès que l'occasion se présente. Enfin, ça c'est ce qu'on sait d'elle car on ne verra rien. Interprétée par Jessica Roth, que j'ai manqué dans La La Land où elle partage la piole d'Emma Stone, c'est un rôle de tête à claque, égocentrique et énergique, une énergie qui va dynamiser tout le film, lequel n'est jamais ennuyeux alors qu'il est quand même question de séquences qui se produisent quasi à l'identique. On pourra d'ailleurs, s'interroger sur ce phénomène qui veut que certains films dont l'objet est la répétition sont moins usants pour le spectateur que quelques pépites du cinéma d'art et d'essai, censés nous faire partager les affres de la condition humaine. Est-ce que c'est le talent, le souci du spectateur ou le rythme ? Voilà, question est posée. Alors, jouissant d'une lumière éclatante, de belles peaux soignées sans boutons, sentant bon l'Amérique des campus, couplée à quelques séquences sombres propices au meurtre, Happy Birthday est rythmé, jamais trop bavard et s'amuse. Ainsi, le tueur masqué, qui n'est pas sans rappeler celui de Scream, hein, n'est pas des plus athlétique et se vautre à plusieurs moments. De même, le scénariste, qui est également un auteur de BD à succès, collaborant à la série des X-Men, s'amuse à brouiller les pistes et la mise en scène s'efforce de donner un minimum d'indications. Et puis, fidèle au modèle d'Un jour sans fin, notre personnage tête à claque, vaguement antipathique, hein, à force de décortiquer son quotidien, eh bien, va pouvoir tirer quelques conclusions.
Quand on revit la même journée en boucle, on commence à savoir qui on est vraiment.
Eh bien oui, loin d'être d'un énième produit formaté, Happy Birthday construit son récit sur une belle idée. À mesure que la journée se reproduit et que le personnage meurt, celui-ci change plus en profondeur et va se révéler en même temps que le tueur. Le réalisateur articule ces deux récits sans peine, ce qui fait d'Happy Birthday un film léger et équilibré. Alors pourquoi ce générique ? Eh bien tout simplement parce que le réalisateur Christopher London... Le réalisateur donc n'est autre que le fils de Michael London, Charlie Ingalls. Eh oui, dans la petite maison dans la prairie. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Et autre clin d'œil à ce film, Happy Birthday, sur les écrans depuis le 15 novembre, eh bien, c'est le blind test spécial boucle temporelle. Le principe est simple, un personnage va revivre sans cesse une même journée. C'est évidemment le principe d'Un jour sans fin, le film d'Harold Ramis. Premier extrait.
Est-ce que mes proches ont été prévenus de mon retour ?
Qui a fait sauter le train, capitaine ?
Quoi ?
Qui a fait sauter le train ?
Il y avait une fille qui m'appelait Sean.
C'est secondaire. Tâchez de vous rappeler, capitaine. Qui a fait sauter le train ?
Qui a fait sauter le train ? J'en sais foutrement rien.
Alors retournez faire une tentative.
Quoi ? Où ça ?
Vous disposerez de 8 minutes, comme tout à l'heure.
Ça, c'était le gros indice. Train, 8 minutes, c'est trouvé.
Et c'est Source Code, un film réalisé par le fils de David Bowie.
Il y a beaucoup de fils d'eux. C'est Jacques Gyllenhaal qui doit revivre sans cesse, et bien les quelques minutes précédant l'explosion d'un train afin d'identifier et d'arrêter les auteurs de l'attentat. Deuxième extrait.
Je suis un des 11 agents temporels du bureau. Nous intervenons pour empêcher que des crimes soient commis. Tiens, voilà des fringues. Mets-les.
Dis, comment tu savais qu'elles étaient planquées là ?
Aucune importance. Mets-les, c'est pour te fondre dans la masse.
Mais t'es déjà venu ici ?
C'est compliqué, tu sais.
Non, tu crois ?
Écoute, notre empreinte de perturbation temporelle doit être extrêmement faible. Le bureau autorise de très légères variations, mais au bout du compte, les paramètres sont extrêmement stricts. Un écart par rapport à notre mission, et c'est l'arrêt immédiat.
Quoi, l'arrêt immédiat de ton boulot ?
Non, l'arrêt immédiat de ta vie. C'est pourquoi tu devras réduire tes conversations avec les gens pendant cette période de temps à leur plus strict minimum.
C'était Prédestination ?
Oui, c'est trouvé.
Avec Marine. Ethan Hawke, qui n'est pas sorti en salle, alors que c'était, enfin, en France, alors que c'était un très bon film, vraiment très sous-estimé. Je sais pas ce qui s'est passé.
Bah oui, bah, c'est l'occasion de le revoir.
Je crois qu'il a été diffusé sur Netflix d'abord.
C'est possible. Donc ça, c'est un enchaînement de boucles temporelles hein, pour ce film. Donc à voir avec Ethan Hawke. Encore un autre film là qui n'est pas sorti en France.
Pourquoi tu te caches le visage ?
Je veux pas que tu vois mon visage.
Pourquoi ?
Parce que c'est pas moi. Moi, je suis pas là, je suis avec toi sur le voilier. Quand je t'aurai tué, on sera libre.
Ça va aller. Tu devrais poser ton fusil et m'expliquer ça tranquillement. Ok ? S'il te plaît.
Le bateau revient quand tout le monde est mort. J'ai tout fait exactement comme la dernière fois. Et quand le voilier reviendra, je serai prête cette fois. Je vous attendrai en bas des marches. Et je vous empêcherai de monter sur ce bateau. Faudra plus monter sur ce bateau.
Ah, compris. Alors, c'est trouvé.
C'est Triangle de Chris Smith.
Et que tu n'as pas vu en salle.
Et non.
Et non. Et là, bah, c'est la boucle temporelle, en fait, le personnage va voir ses doubles.
Oui, c'est ça. Hein, voilà. Elle revit le même jour à chaque fois sur le bateau, tous les jours.
C'est un film de 2009. Allez, un film français cette fois-ci.
Vas-y, qui a placagé là ?
Eh non, il n'y a pas de cadjé, les salles elles sont toutes pourries, tu sais.
Non, pourrie, ça ne se dit pas, c'est peut-être pourri que tu essayes d'exprimer, Mourad.
Eh hey, frérot, c'est ma sixième terminale, d'accord ? On dit les carottes sont cuites, parce que. Donc les salles sont pourries, parce qu'on accorde le sujet avec sa mère.
Bon, d'accord, si tu veux, Mourad, mais en tout cas, ils essayent de bloquer les réseaux. C'est le frère Smeden qui l'a découvert.
Le frère de qui ?
Tiens, mon frère.
T'as dit quoi là ? Et qui t'appelle mon frère là ? T'as registré un bonhomme ou quoi, toi ? Mourad, j'ai un bonhomme pour toi ? T'as dit quoi ?
Non, rien à voir.
Il a dit non, voilà.
Et les Français se servent de la boucle temporelle pour faire vraiment de la comédie. C'est sorti cet été. Et oui, on l'a tous les trois raté. Hein. C'était La Colle de Alexandre Castagnetti.
Ah bah c'est dommage. Oui.
Donc là, c'est.
Raté.
Bah oui, c'est vraiment.
Donc c'est un élève qui est bloqué dans une heure de colle. Et à chaque fois qu'il s'éloigne trop d'un personnage dont il est amoureux, eh bien, il revit la journée. Voilà. Il ne peut pas s'éloigner trop de ce personnage. Allez, dernier extrait.
Vous ne combattez pas une armée. Vous devez considérer ça comme un organisme unique. Alors, ces drones ordinaires agissent comme ces griffes.
Les alphas, comme celui que vous avez tué, sont beaucoup plus rares.
Oui, il y a un alpha pour 6,18 millions de mimiques, d'après moi.
Et ils agissent lorsque l'ennemi...
Ils sont comme son système nerveux central. Mais ça, c'est le cerveau. Il les contrôle tous. C'est l'oméga. Et l'oméga a la capacité... de contrôler le temps.
Chaque fois qu'un alpha est tué, une réaction automatique est déclenchée. Et l'oméga fait recommencer la journée. Et à partir de ce moment-là, il garde en mémoire tout ce qui va arriver. Exactement comme vous.
Et il sait exactement ce qu'on va faire avant que nous le fassions.
Et un ennemi qui connaît l'avenir ne peut pas perdre.
C'est le modèle du genre. C'est trouvé donc.
The Age of Tomorrow. Ouais.
Film de 2014 de Doug Liman avec Tom Cruise et Emily Blunt. Ainsi s'achève ce blind test et on passe à la suite du sommaire.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Comme votre atelier est le prochain à fermer, nous allons devoir mettre un terme au contrat de travail qui vous unissait à la société.
Je suis licenciée.
Vous avez la possibilité de demander un reclassement, là où nous allons continuer la production. Au Maroc.
On continue donc avec Prendre le large de Gaëlle Morel. Edith, que l'on vient d'entendre, interprétée par Sandrine Bonner, pardon, travaille depuis toujours dans une usine textile. Usine qui a pourtant eu la peau de son mari, mort d'un cancer, à cause des produits chimiques employés. Lorsque l'usine ferme ses portes et qu'elle délocalise sa production à Tanger, Edith, à la surprise générale, décide de partir au Maroc afin de continuer à travailler pour la même firme plutôt que d'empocher des indemnités et de rester en France. Le fait de découvrir que son fils est marié à Paris sans rien lui dire la conforte dans son choix. Puisque rien ne la retient dans son propre pays, elle ira commencer une nouvelle vie ailleurs.
C'est vous la française ?
Oui. Vous, c'est Mina, alors ?
Oui, c'est ça. Suivez-moi. Il y a la note qui est là pour que le bagage de Gawri.
Merci. Il ne faut pas installer ce cheveu comme ça dans le bus. C'est pas bon.
Je pensais que j'occuperais le même poste qu'en France.
Vite. Pleu vite.
Que tu prends la belle cantine.
On accepte tout pour le travail. Regarde. Mais il n'y a personne à la maintenance ? Personne pour réparer les machines ?
Edith va vite déchanter. Les conditions de travail dans sa nouvelle usine marocaine sont déplorables. L'insécurité dans la ville est quotidienne et elle ne parvient pas à s'adapter à ce nouveau pays qui lui est hostile. Elle s'obstine, lutte, mais la renaissance qu'elle espérait tourne au cauchemar. Prendre le large est le portrait d'une femme de 50 ans qui décide de survivre, de revivre. Mais c'est également une peinture complexe des contradictions de Tanger et plus généralement du Maroc, où se côtoient associations islamiques qui imposent leurs règles et familles émancipées qui comptent bien profiter des nouvelles lois pour acquérir davantage de liberté.
J'aimerais bien passer des soirées à faire la fête, à boire, à draguer. C'est comme ça que j'imagine les jeunes en France. Libres.
C'est vrai qu'ici le travail, c'est pas facile.
Ça te donne pas envie de rentrer ?
T'es folle ? Après tout ce que j'ai fait.
Tu penses à quoi ?
À la suite.
Alors, c'est un témoignage juste hein, des disparités du pays. C'est aussi un film à charge, de façon peu subtile parfois, sur les dégâts de la mondialisation. Cela dit, le film a au moins le mérite de nous apprendre comment nos vêtements H&M sont produits et comment sont ramassées les fraises que l'on achète en plein hiver. Alors, j'ai eu un peu de mal quand même à comprendre l'engouement généralisé des critiques pour ce film, qui, même s'il est animé de belles intentions, est quand même assez inabouti, voire parfois presque amateur. Je pense que l'indulgence dont les critiques font preuve à l'égard du film est en grande partie due à la présence de Sandrine Bonner, qui s'était faite, il est vrai, plus discrète ces dernières années. Le jeu des comédiens manque vraiment de naturel, y compris celui de la comédienne qui articule chacun de ses mots comme si elle était la comédie française. Et puis, tourner entre deux pays avec un budget, on l'imagine ici limité, ce n'est jamais facile, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un souci dans la direction d'acteurs et que cela donnait à l'ensemble quelque chose de très poussif. Donc pour moi, c'est quand même un semi-ratage.
Eh bien, on a vu où on était Sandrine Bonner, on va voir où on est Jackie Chan.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il croit que je sais qui a tué sa fille.
C'est le cas ?
Les héros sont fatigués, hein. C'est ce qu'inspire ce foreigner du vieux routier Martin Campbell, artisan honorable en perte de vitesse, qui réalisa tout de même jadis deux bons James Bond, GoldenEye et Casino Royale, ainsi que le très enlevé Masque de Zorro. Alors il retrouve Pierce Brosnan qui lui vieillit plutôt bien, il est convaincant en politicien ambigu, ex-membre de l'IRA, et l'on regrette un peu de ne pas le voir dans des rôles à la hauteur de son talent. En revanche, on ne peut pas en dire autant de Jackie Chan, hein, sur qui est censé reposer ce thriller mou du genou au scénario à la fois alambiqué et manichéen sur le fond. Car derrière ses bonnes intentions, il ne s'agit que d'un vulgaire film de vengeance. À Londres, un modeste propriétaire de restaurant chinois va tenter de retrouver les terroristes irlandais responsables de la mort de sa fille. Évidemment, avant d'être restaurateur, le redoutable chinois a servi dans les forces spéciales. Tel un Rambo des temps modernes, il reprend du service et il n'est pas content. Alors Jackie Chan, hein, en pleine vendetta, va se transformer en justicier des temps modernes, sauf que physiquement, il n'a plus la même prestance que par le passé. Il a même totalement perdu son humour en cours de route. Alors pour faire bonne mesure, il exécute quelques combats davantage découpés que chorégraphiés, afin de ne pas s'apercevoir qu'il a désormais une doublure. Alors fini les cascades démentes et les sauts périlleux, Jackie Chan accuse ses 63 ans et a bien le droit de se reposer. Alors le corps vieilli, la peau fripée, hein, pourrait bien être des atouts et transformer l'exigoto des cultissimes Mister Dynamite ou les marins de mer de Chine en un acteur intéressant, hein, comme la pulette parfois Stallone. Mais le Hongkongais est un piètre comédien, tramalant pendant deux heures interminables la même expression de chien battu à la droupie pour signifier la douleur. Alors il tire la tronche et a les yeux plissés. On ne le voit jamais sourire. À peine esquisse-t-il, si on fait très attention, un léger mouvement avec les sourcils à la 38e minute. Non, je déconne là.
C'est la liberté que lui donne le botox. Tu n'y peux rien.
Cette impassibilité ne débouche sur rien et reste au raccord avec un film d'action dénué d'envergure dont on ne comprend pas très bien les motivations réelles. Le scénario est tiraillé entre le film d'action l'action populiste à la morale simpliste, et le thriller sophistiqué sur fond de complots politiques et négociations permanentes. Et ça ne fonctionne pas. Alors, comme si un film de Jean-Claude Van Damme s'invitait par erreur dans un roman de John le Carré. Donc, c'est un vrai ratage.
Voilà, c'était Foreigner qui est sur les écrans en ce moment.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
C'était Cinérama, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour à nouveau parler cinéma. Moi, j'aurais vu Western, et toi Manu?
Le magasin des merveilles de Todd Haynes.
Et quant à toi Marine, tu nous as préparé quelque chose.
Oui, moi je vais vous parler du brio, et à cette occasion, on aura une interview, l'interview d'un des jeunes comédiens du film qui va nous parler de ses débuts au cinéma.